Super, merci. La première lecture qui va s'afficher, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Alors, je vais vous demander de participer pendant ce culte. Et une des participations, c'est de lire à haute voix avec moi certains versets. On va commencer avec cela. Ensemble. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est le verset d'introduction qui nous dit comment on doit adorer le Père. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire qu'on n'adore pas avec la chair, avec l'orgueil, avec des mauvais sentiments. On adore avec l'Esprit de Dieu et en Esprit de Dieu. On adore le Seigneur en se donnant à lui, sans attendre forcément en retour. Adorer n'est pas une thérapie. On n'est pas là pour faire de la thérapie, on est là pour donner nos cœurs au Seigneur et donc on doit le faire en esprit. Adorer n'est pas non plus une sorte de transe où on se met dans un état second en psalmodiant et en chantant, en fermant les yeux. Adorer, c'est en esprit et en vérité. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. On doit adorer Dieu selon sa parole. On doit adorer Dieu en vérité, ça veut dire aussi d'un cœur vrai. Si on adore Dieu d'un cœur hypocrite, c'est-à-dire on a l'intention de continuer à vivre dans le péché, mais le dimanche on dit, il faut quand même que je fasse comme tout le monde, hein, je vois tout le monde est là autour de moi, je vais essayer de chanter comme tout le monde et d'avoir l'air un bon chrétien, ça ce n'est pas adorer en vérité. Adorer en vérité, c'est d'un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est reconnaître notre faillite, reconnaître notre petitesse, mais c'est se tourner vers le Seigneur pour qu'il change notre vie, pour qu'il purifie nos cœurs. Quand on ne connaît pas Dieu, adorer, c'est quelque chose de bizarre, d'inutile même. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire de cette femme, Marie, qui avait été délivrée de plusieurs démons, et elle avait, étant une prostituée, elle avait gagné beaucoup d'argent, qu'elle avait placé, c'est ce qu'on faisait à l'époque, dans du parfum. Le parfum, c'était ce qu'il y avait de plus cher, avec l'or et les diamants, et donc elle avait un vase de parfum d'un grand prix. Elle est venue en pleurant aux pieds de Jésus, et elle a versé tout son parfum sur ses pieds. Et Judas, qui tenait les cordons de la bourse et qui aimait plus l'argent que Dieu, a pensé, hein, et l'Évangile nous dit, mais on aurait pu faire plein de choses avec cet argent, on aurait pu le donner aux pauvres, ça c'est son hypocrisie, parce qu'il ne voulait pas le donner aux pauvres, mais il trouvait ça inutile de déverser ce parfum coûteux. Et l'adoration paraît inutile pour beaucoup. À quoi ça sert d'adorer, de remercier Dieu? Qu'est-ce que ça va me rapporter? On n'est pas là pour rapporter, on est là pour donner à Dieu nos cœurs, nos remerciements, nos louanges. Je vous demanderai donc, si vous voulez participer à ce culte d'adoration, d'être sincère, si vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez suivre simplement, écouter, regarder, mais surtout, ne soyons pas hypocrites. On va chanter un premier cantique, « Grand Dieu, nous te bénissons », et je vous demanderai si vous pouvez vous lever avec moi pour le chanter. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu. Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus. On va faire a cappella. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Prions. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, qui n'ont pas entendu l'introduction, ce culte est un culte d'adoration un peu particulier parce que nous allons ensemble adorer le Seigneur à travers sa parole, à travers les chants, à travers des partages, à travers la prière. Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu premièrement ? Eh bien, la première raison qui nous vient à l'esprit, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a sauvés. Lisons ensemble Romains 7, 24. Alors avec moi, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Si donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ici, l'apôtre écrit, inspiré par Dieu, « Misérable que je suis ». Et on peut tous dire ça, nous sommes misérables parce que nous sommes dans un corps de mort, un corps qui a fait tellement de péchés en action, mais aussi on a péché en pensée. Et on a péché par notre désobéissance, notre résistance à Dieu. On a commis des actes abominables. On a été méchant avec d'autres personnes, avec des créatures de Dieu. On leur a fait du mal. On a été totalement orgueilleux avec Dieu. Hein. On s'est pris pour Dieu. On l'a méprisé comme s'il n'était rien. Misérable que je suis. Mais il continue, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ ». Notre Seigneur, merci Seigneur, par ta grâce, le misérable peut devenir un saint. Et ça doit susciter en nous une louange pour toujours. Un autre passage qui est magnifique, c'est dans le psaume 40. Je vais le lire cette fois-ci tout seul. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Il y a beaucoup de choses dans ce passage, hein. Il dit, j'ai mis en l'Éternel mon espérance, ma foi. J'ai dit, Seigneur, je compte sur toi. L'espérance, c'est que vous attendez, hein, de quelqu'un la réponse. J'avais mis en Dieu mon attente, ma foi. Et il s'est incliné vers moi. J'aime ce mot, il s'est incliné. Dieu est bien plus élevé que nous, ses pensées nous dépassent. Sa sainteté est totale, sa justice est absolue, sa perfection sans limite. Et nous, nous sommes tout en bas là, mais il s'est incliné vers nous. Et on peut dire qu'il nous a tendu la main. Ce n'est pas l'homme qui peut atteindre Dieu, hein. On n'y arrivera jamais. La Bible dit, hein, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et littéralement, ils sont trop courts pour atteindre Dieu. On ne peut pas atteindre Dieu. C'est Dieu qui s'incline. Et il dit dans ce psaume, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction. C'est quoi la fosse de destruction? Mais c'est notre attente, quand on est pécheur, c'est la mort éternelle. Il m'a retiré de cette fosse où j'étais prisonnier. Je détruisais les autres à cause du mal qui était dans ma vie. Il a dressé mes pieds sur le roc. Quand on est sauvé, on n'est plus dans la boue. On n'est plus dans la fosse. On n'est plus dans les marais, hein, dans les sables mouvants du péché. On est sur le roc. Qui est le roc ? Jésus-Christ. Le rocher était Christ. C'est lui notre roc. Et c'est un roc qui ne bouge pas. Souvenez-vous la parabole de la maison, hein? Celui qui écoute la parole mais qui ne la met pas en pratique, il a bâti sa maison sur le sable. Arrive le vent, la tempête et le sable, qu'est-ce qu'il fait? Il emporte la maison. Nous avons tous vu, hein, avec effroi ces images dans les inondations des maisons, des voitures, des mobil-homes qui flottent et qui se sont emportés. C'est effrayant. Si la maison n'est pas solide, alors qu'est-ce qui reste? Mais quand on bâtit sa maison sur le roc, sur les paroles de Christ, il peut y avoir un tremblement de terre même, hein? Le roc, ça ne bouge pas. Le roc de Christ ne bouge pas. Il dit, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Et quand on est sauvé par le Seigneur, on se met à chanter. Il y a quelque chose de nouveau. Même si on ne sait pas chanter, même si on n'a jamais chanté de sa vie, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'Esprit de Dieu, la joie du salut, et ça sort par un chant. Pourquoi les chrétiens chantent tout le temps? Est-ce qu'on les oblige à chanter? Est-ce que vous êtes obligés de chanter? Ah, j'espère que vous chantez dans la journée, chez vous. Le matin, le soir, je chante, comme dit la chanson, hein, Charles Trenet. Eh bien, ça pourrait être vraiment un chant chrétien, ce qu'il a dit, hein. Le soir, le matin, je chante parce que je suis sauvé. Il a mis un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Ces chants, ce n'est pas n'importe quoi, c'est des chants de remerciement. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Ceux qui nous connaissaient avant et qui voient notre louange, notre joie, qui entendent nos chants, ils se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qu'il chante? Il chante sur Jésus, sur Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont étonnés, mais il y a une crainte qui vient aussi. Une crainte, pas dans le sens de la peur, mais il y a une force dans la vie de ce chrétien. Il y a quelque chose dans sa vie qui le fait chanter, même dans l'épreuve, même dans les difficultés. Qu'est-ce que c'est? Et ils se sont confiés aussi en l'Éternel. Certains sont venus à la foi en voyant la vie des chrétiens, beaucoup même, changée et solide dans l'épreuve. Alors nous, on va aussi louer le Seigneur. Parce qu'il nous a sauvés. On va chanter le cantique « Sauvé ». Combien j'aime le dire. On va chanter les deux premières strophes.
Sauvé, combien j'aime le dire, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, et plus rien ne peut nuire à ceux qui invoquent son nom. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, je voudrais le redire, sauvé par la foi en son nom. Sauvé, oh la joie en Jésus, les mots manquent pour l'exprimer. La lumière de sa présence sans cesse me tient éclairé. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, je voudrais le redire, sauvé par la foi en son nom.
Par quoi sommes-nous sauvés, dit ce cantique? Par le sang de l'agneau, par le sang que Jésus a versé à la croix. Est-ce que nous étions dignes d'être sauvés? Non. Est-ce que nous avons mérité d'être sauvés, Aymeric? Non. On a vu ça dans son cours hein, de baptême, c'est pour ça. Est-ce que nous étions des personnes admirables? Et Dieu a vu nos œuvres admirables et il a dit, « Ah, celui-là, celle-là, il faut que je le sauve. » On est sauvés par grâce. Nous étions des pécheurs. Et c'est le sang de Christ qui a coulé, c'est sa mort pour nous, qui a payé notre dette. Nous étions en dette. Nous étions à découvert avec Dieu, mais un découvert qu'on ne peut jamais rembourser. Nous étions des Jérôme Kerviel. Connaissez ce trader? Combien il doit à la banque? Il devait, je ne sais pas si ça a été annulé, hein, 4 milliards ou quelque chose comme ça. On lui réclamait 4 milliards. C'est absurde. Comment voulez-vous rembourser 4 milliards hein? Même si vous touchez 10 000 euros par mois, vous n'êtes pas prêt de rembourser. Eh bien, nous, avec Dieu, nous sommes des Jérôme Kerviel. C'est-à-dire, nous devons tellement à Dieu, par nos offenses, envers sa loi, envers sa personne, que nous ne pourrons jamais rembourser. Vous pouvez donner votre vie pour les pauvres. Vous pouvez partir en Inde, aller aider les orphelins 24 heures sur 24 sans jamais dormir. Vous ne pourrez jamais racheter vos fautes. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas se racheter. C'est Christ qui nous a rachetés par son sang. Parce que lui, il était parfait. Et sa vie parfaite a été livrée pour nous dans la mort. Hein. Et en livrant sa vie, il a payé notre dette. Aujourd'hui, nous pouvons être déclarés justes. La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes déclarés justes, pardonnés, acquittés par la foi. Pourtant, nous sommes coupables. Et c'est ça qui est étrange. Que Dieu dise « acquitté » pour un pécheur comme nous. Mais c'est ça la grâce. Et nous devons le remercier. Quelqu'un qui ne remercie pas Dieu pour son salut, on peut douter de son salut. On peut se dire, mais est-ce qu'il a vraiment compris qu'il était, de quoi il a été sauvé? Parce qu'on était sauvé d'une mort certaine, du jugement dernier, de la condamnation de l'enfer. Un autre sujet de joie et de louange avec le salut, c'est une victoire particulière. Quelle est la victoire particulière de Jésus-Christ? Il a vaincu la mort. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15. Alors ça, il faut le lire ensemble, hein, parce que c'est trop beau. 54. Avec moi, à haute voix, lorsque l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Christ a vaincu la mort lui-même. Il a regardé en face et il est ressuscité. Et sa victoire, il nous la donne. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la promesse que nous ressusciterons aussi. Nous avons la vie éternelle. Le jour où je meurs, je continue à vivre dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? C'est ça le salut. C'est ça la victoire en Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus est vraiment ressuscité? Il est vraiment ressuscité. C'est ça qui change tout dans la foi. Une religion morte a un Dieu mort qui est resté cloué. Une religion vivante a un Dieu vivant qui a vaincu la mort. Est-ce qu'il y a un ennemi pire que la mort, hein? Je ne pense pas, franchement. On est prêt, même certains seraient prêts à vivre dans un cachot si on leur accordait la vie éternelle. Mais on n'a pas besoin de vivre dans un cachot parce que la vie éternelle nous est donnée par la foi en Jésus-Christ. Alors on va se réjouir en chantant « Tu dors dans ce tombeau, mais tu es ressuscité ». Pas trop lent, hein.
Tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le sceau ni les soldats, Jésus mon frère, ne te retiendront pas, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu.
On va s'arrêter là pour ce chant. Gloire à Dieu, hein, Jésus est ressuscité. Alors la louange doit faire partie de notre vie chrétienne. Un chrétien qui ne loue pas de son Dieu, c'est qu'il s'est refroidi. C'est qu'il commence à murmurer. Souvenez-vous les Israélites dans le désert. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir miraculeusement alors qu'ils étaient face à l'armée égyptienne et face à la mer. Et ils sont passés à pied sec. Ils ont vu cette délivrance extraordinaire. Ils ont loué Dieu. Et puis, arrivés dans le désert, ils ont commencé à murmurer, à se plaindre. Mais il n'y a que du sable, du soleil ici. J'ai soif. Ah, en Égypte, on mangeait des bonnes choses. Les esclaves, parce qu'ils travaillaient dur à fabriquer des briques et toutes sortes de monuments, étaient bien nourris. C'est ce que les archéologues ont découvert récemment en Égypte. Ils ont découvert qu'ils avaient des menus vraiment super énergétiques, poissons, légumes, viande, etc. Et les Israélites ont dit, on mangeait bien en Égypte. Et là, dans le désert, qu'est-ce qu'on a tous les matins? La manne. Qu'est-ce que c'est pour nous la manne? Qui est pour nous la manne? Pour nous chrétiens? C'est la parole de vie, c'est Jésus-Christ, c'est la Bible. Dieu nous donne sa parole, nous donne sa personne. On peut se nourrir de Dieu hein, tous les jours, mais il y a des chrétiens qui murmurent. Ils disent « Oh, avant je pouvais faire ce qui me plaisait, hein. Maintenant je ne peux plus. Oh, avant j'avais tous mes amis, on faisait la fête, on s'amusait bien, maintenant tous mes amis m'ont laissé. Avant j'avais pas d'épreuves presque, parce qu'on a oublié, hein. On était esclaves, hein. On était en train de faire des briques, hein. Mais on a oublié qu'on avait des épreuves et qu'on était esclaves. On dit, ah non, avant, j'avais une belle vie et maintenant, regarde, je suis chrétien et j'ai plein de problèmes. J'ai des gens qui ne m'aiment pas, des persécutions, des difficultés. Et on murmure. Et quand il y a une épreuve trop longue, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'envoies cette épreuve? Mais pourquoi tu ne m'en sors pas? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Et on murmure. Mais la louange, c'est un changement d'attitude. On arrête les murmures, on arrête l'incrédulité, on arrête les doutes et on dit « Seigneur, je veux te remercier, je veux me tourner vers toi ». Le psaume 146 est un exemple de louange. On va lire ensemble les 5 premiers versets à haute voix avec moi. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Je louerai l'Éternel, mon âme louera l'Éternel tant que j'existerai. Ça, c'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et qui veut lui dire. Je pense qu'on ne le fait pas assez dans notre semaine, dans notre vie. On ne lui dit pas assez au Seigneur. On est pris par le tourbillon de la vie, les soucis, les angoisses, et on oublie de regarder, de lever les yeux tout simplement vers notre Dieu. J'aimerais lire un extrait de ce que ce pasteur Hayden Tozer a écrit sur la véritable adoration. Il dit « Celui qui cherche Dieu comme un moyen d'arriver à ses fins ne trouvera pas Dieu. Le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, n'est pas un trésor parmi d'autres. Il n'est même pas le summum des trésors. Il est tout en tous, ou alors il n'est rien. On ne peut pas utiliser Dieu. Sa miséricorde et sa grâce sont infinies. Sa patience compréhensive est incommensurable. Mais il n'aidera pas les hommes à atteindre leurs désirs égoïstes. Il n'aidera pas les hommes à atteindre des buts qui, lorsqu'ils sont atteints, prennent la place de Dieu dans leurs intérêts et leurs affections. L'enseignement de la Bible, c'est que Dieu est en lui-même le but pour lequel l'homme a été créé. Psaume 73, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ?» Le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu de toute sa force et de tout notre être. Est-ce que nous sommes venus chercher Dieu ici ce matin ? Parfois, on vient à l'église pour d'autres raisons, pour le côté social. Je suis seul toute la semaine, alors ça me fait du bien de voir du monde. Et c'est vrai. Pour l'ambiance, je suis triste toute la semaine, alors j'ai un peu de joie à l'église. On chante, on rigole, on parle. Et c'est vrai. J'ai besoin qu'on m'encourage toute la semaine. Là aussi, je me bats tout seul avec mes épreuves. Alors le dimanche, ça me fait du bien de partager mes fardeaux. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit venir à l'église. Premièrement, on doit chercher Dieu. Parce que qu'est-ce qui répond à notre solitude, à nos problèmes, à notre manque d'amour ou de joie ? Il n'y a que Dieu. Les autres chrétiens ne peuvent pas répondre à cela. On va toujours être déçus. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont déçus par les églises. Ah oui, dans cette église, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de joie, il n'y a pas assez de ceci. Mais oui, parce qu'on est des êtres humains. Mais si on vient chercher Dieu, vous allez voir la joie et l'amour qu'on va trouver. Et on doit le faire tous ensemble aussi. Le dimanche, c'est quand même, on est tous ensemble. On doit avoir un même cœur, une même âme. J'aimerais vous lire encore un extrait des psaumes sur l'idée de chercher Dieu. Psaume 63, et je vais le lire seul. Lorsqu'il était dans le désert, David, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour avoir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Est-ce que nous cherchons le Seigneur ? Comment on cherche Dieu ? parce qu'on ne peut pas le voir. Il est esprit, on l'a vu au début. Mais on le cherche dans la prière, on le cherche par la foi. On dit « Seigneur, je te cherche ». Comme il dit dans le psaume, « J'ai soif de toi, je veux mieux te connaître. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux faire abstraction de mes propres idées sur toi. Je veux te connaître, toi, tel que tu es, tel que la parole le révèle. » Nous avons tellement de fausses idées sur Dieu qui doivent être triées, enlevées. Alors je suggère qu'on chante ensemble ce cantique de remerciement, d'adoration. Comment te dire merci ? On peut se lever peut-être pour le chanter.
Comment pour tout ce que tu as fait pour moi, ces choses imméritées, où tu prouves ton amour pour moi, les voix des milliers d'anges ne sauraient exprimer ma joie. Ce que je suis ou espère être un jour, Seigneur, c'est grâce à toi. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour tout ce par son sang, il m'a lavé, sa puissance m'a sauvé. À Dieu soit la gloire, maintenant et à jamais. Oh, je veux vivre pour lui et par ma vie lui dire merci, que jamais je n'oublie que pour moi il donna sa vie. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, maintenant qu'il a fait. Par son sang, il m'a lavé, sa puissance m'a sauvé. À Dieu soit la gloire, maintenant et à jamais.
Vous pouvez vous asseoir. Alors, on va avoir... Les enfants sont déjà là ou pas ?
Non.
Voilà. Comme il n'y a pas le message à la fin, le temps où les enfants peuvent... Je vais leur demander peut-être de venir maintenant avec Jérémy, les grands. Réfléchis, on pourrait louer Dieu toute la journée et on aura toujours des nouvelles choses à dire. On loue Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Mais souvent, on oublie le premier. Qu'est-ce que Dieu est ? On va lire dans le psaume 86, quelques versets. On va lire ensemble jusqu'au verset 10, et après je lirai tout seul, 8, jusqu'au verset 10 ensemble. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Je vais continuer tout seul, parce qu'on va jusqu'au verset 15. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Notre Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est saint. Il ne fait jamais de mal. Il ne pense jamais au mal. Il ne peut pas être tenté par le mal. Combien c'est rassurant. Vous savez, quand vous avez un dirigeant dans un pays qui est un dictateur corrompu, mais vous avez peur chaque matin en disant « qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ? Qu'est-ce qui va inventer comme torture, comme sujet de m'emprisonner, de me faire du mal ? Qu'est-ce qui va faire pour détruire notre peuple ?» Un dictateur corrompu, c'est horrible. Mais Dieu n'est ni un dictateur ni corrompu. Il est le seul vrai Dieu, il est saint. Mais non seulement il est le saint, mais on a lu, il est miséricordieux et compatissant. Beaucoup ont cette idée que Dieu est lointain et qu'il est tellement loin qu'il voit notre vie de loin. C'est-à-dire, il voit des choses qui bougent de loin, mais il ne se rend pas trop compte. Mais la Bible dit que Dieu est près de nous et qu'il est compatissant. Ça veut dire qu'il souffre avec nous. Il sait par quoi on passe. Il sait ce que c'est la souffrance. Comment il peut savoir ce que c'est la souffrance ? Il a souffert lui-même. C'est pour ça aussi que Dieu a voulu s'incarner en la personne de Jésus. C'est pour connaître ce que nous, nous connaissons. Parce que quand vous êtes parfait, esprit, infini, vous ne connaissez pas les limitations de l'homme. Vous ne connaissez pas la faiblesse, vous ne connaissez pas la souffrance, vous ne pleurez pas. Dieu ne pleure pas au ciel. Il n'a aucun sujet de pleurer, sauf que lorsqu'il est devenu un homme, il a vu la misère de l'humanité. Il a vu l'esclavage du péché. Il a vu la destruction des corps et des âmes. Jésus a pleuré plusieurs fois. À quel moment il a pleuré ? Quand Lazare était mort sur Jérusalem. Hein, il dit, ah, si tu savais. Voilà. Jésus a souffert et il sait ce qu'on souffre. Et il est compatissant. Nous louons Dieu parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Il est aussi devenu notre Père. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu n'est pas simplement notre Dieu, il est devenu notre Père. Il nous a adoptés dans sa famille. Si nous avons cru en son Fils Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes héritiers, il est notre Père. On va lire ensemble ce beau passage de Romains 8 et vous allez m'accompagner dans la lecture. Versets 14 à 16 ensemble. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous... C'est pas affiché, pardon. Je me suis trompé, mais je vais le lire tout seul. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes ses enfants. On peut l'appeler Père. C'est pour ça que quand on prie, on peut dire notre Père, mon Père. Abba, hein, c'est un mot araméen pour dire papa. Je peux appeler Dieu mon papa. C'est en Afrique la première fois que j'ai entendu les frères et sœurs prier papa. Au début, j'étais un peu troublé. J'ai dit, mais oui, j'ai dit, c'est vrai, c'est mon papa céleste. Et c'est merveilleux d'avoir cette relation. Parce qu'un père, c'est quelqu'un qui prend soin de vous, qui veille à chacun de vos pas, qui ne veut pas que vous fassiez du mal, qui va vous porter pour apprendre à marcher, mais aussi qui va vous laisser des fois un petit peu, hein, vous débrouiller, pour voir comment, comment ça marche. Et là, souvent, on chute. Mais Dieu est toujours là pour nous retenir. Il nous relève. Il nous accorde son amour, sa grâce. Il la renouvelle chaque matin. C'est merveilleux d'avoir un Dieu comme ça. J'aimerais qu'il y ait un moment de partage en quelques minutes et que plusieurs qui sont volontaires disent « L'amour pour Dieu est encore, bien sûr, plus élevé, c'est spirituel. J'aime Dieu pour ce qu'il est, pour sa sainteté, sa perfection. » Mais c'est vrai qu'on loue Dieu aussi pour ce qu'il a fait. D'abord, il nous a créés. On va lire le psaume 33. À partir du verset 3. Vous voulez m'accompagner? Alors allons-y. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice, droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà, ça c'est le Créateur. Il parle et la chose arrive. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme est créateur au sens où il peut modifier ce que Dieu a fait. Mais il se base sur ce que Dieu a déjà fait au départ. Le Créateur, c'est celui où il n'y a rien et il fait. Il n'y avait rien que Dieu et les anges. Et puis Dieu a dit, maintenant je vais faire un univers. Il a parlé, et il y a notre univers. Quand vous pensez que notre univers n'est pas totalement infini, mais il n'est pas loin d'être infini. Il y a peut-être 100 milliards de galaxies au moins qu'on a pu compter. Mais dans chaque galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Et chaque étoile a un système planétaire. C'est-à-dire, c'est des chiffres, on n'arrive pas au bout. Quoi. On ne peut pas compter les étoiles, on ne peut pas compter même les galaxies, on ne peut pas les compter. Et c'est Dieu qui a créé tout ça. On se dit, mais pourquoi il a créé tout ça? Pour faire une petite terre au milieu? Ne me demandez pas, moi je ne sais pas. C'est le Créateur qui a voulu les choses comme ça. Mais n'est-ce pas magnifique, hein? Il y a un tableau là-bas avec les galaxies, avec les nébuleuses, la nébuleuse d'Orion et tout ça. C'est fantastique. C'est des tableaux qui sont dans l'univers, hein, que Dieu a peint. Et puis il nous a créés nous aussi. Dans un psaume, David dit, hein, « Je te loue de ce que je suis une créature si admirable. » Et c'est extraordinaire de contempler même ce que Dieu a fait avec notre corps, qui est admirable. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a fait. Non seulement il nous a créés, mais il nous a rachetés. Parce que nous étions dans l'esclavage du péché, nous étions séparés de lui, nous avons gâché tout ce qu'il nous a donné. Hein. La création qu'il a mise a été gâchée. En ce moment, on parle beaucoup, hein, de préserver la planète. Et même s'il y a parfois certains idéologues, hein, dans ce mouvement, il y a quand même une vérité. On est en train de salir. Vous avez déjà vu dans ces images, dans les océans, des îlots de sacs en plastique et de bouteilles. Ça fait des îles. On dit, mais c'est pas possible, c'est dégoûtant. Et les déversements de pollution dans les rivières, dans les fleuves, certains agriculteurs qui mettent les pesticides, hein, dans les nappes phréatiques, l'homme ou les usines, l'homme a gâché ce que Dieu lui a donné. Mais Dieu, pourtant, nous aime et nous a rachetés. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous sur une croix infâme. Si vous voulez bien lire avec moi Ésaïe 53, les versets 3 à 6. Peut-être on peut se lever pour le lire. Ésaïe 53, 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. On peut s'asseoir. Et je propose qu'on chante ce cantique « Quand je contemple cette croix ».
Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand s'unir à tout le plus extrême, et l'épine fond mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un thème amour demande.
Je propose qu'on ait un moment de prière, que plusieurs élèvent la voix pour louer le Seigneur. J'aimerais avoir un moment d'annonce. Alors, je n'ai pas rempli les annonces, donc je vais les faire oralement, René. Bienvenue à tous, si vous êtes visiteurs. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des visiteurs aujourd'hui. En tout cas, pourquoi ? Parce qu'il prend soin de nous. Et ça, c'est une vérité merveilleuse pour le chrétien. Dieu est tout-puissant, il est le créateur de l'univers, et pourtant, il s'occupe de moi, de ma petite vie, comme on avait chanté, de mon petit monde à moi. On va lire ensemble 1 Pierre 5, 6 et 7. Voilà. Ensemble avec moi, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà, c'est un verset très dense. Hein, en quelques mots, là, il dit beaucoup de choses. D'abord, il commence par s'humilier. Il faut s'humilier devant Dieu. S'humilier, ça ne veut pas dire se dégrader ou, je ne sais pas, se dévaloriser. S'humilier, c'est reconnaître notre petitesse. Nous ne sommes que des créatures fragiles. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Même si on est capable d'inventions extraordinaires, hein, il faut reconnaître, l'homme... Les ingénieurs, les chercheurs sont extraordinaires, mais c'est tellement limité par rapport à Dieu. Hein, je vous disais que le corps humain est mille fois supérieur à ce que les ingénieurs peuvent faire. Hein, le meilleur des ingénieurs, il n'atteint pas la cheville de Dieu, tellement le corps humain est merveilleux. Qu'est-ce que j'ai lu ? C'était sur le cerveau encore. Ah oui, que l'intelligence ne dépend pas de la taille du cerveau, mais des connexions. Et que le cerveau est une machine extraordinaire qui fonctionne avec l'électricité et des connexions, mais c'est un ordinateur, mais puissance. Ils disent même qu'il y a probablement des connexions quantiques la physique quantique, c'est des connexions qui se font sans bouger. Hein, la quantique, c'est à distance. Bon, c'est compliqué, mais peu importe. Mais on est émerveillé devant la création de Dieu. Donc on doit s'humilier pour qu'il nous élève. Et aussi, on doit se décharger sur lui. Nous avons des soucis, beaucoup de soucis. La vie, surtout quand on est parent, quand on est responsable, on a encore plus de soucis. Mais il faut apprendre à se décharger sur Dieu. Il dit, car lui-même prend soin de vous. Ce ne sont pas les anges qui prennent soin de nous. Il y a des gens qui aiment beaucoup les anges et ils sont toujours en train de parler des anges. Ils disent, moi, j'espère, mon ange me protège, mon ange. On n'a pas besoin des anges, on a Dieu. Il a dit, lui-même prend soin de nous. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre si Dieu s'occupe de nous? Franchement, il est infini, tout puissant. Il voit tout en même temps, il sait tout à l'avance. Si lui prend soin de moi, je n'ai pas vraiment à m'inquiéter. Mais nous sommes des êtres d'inquiétude. Hein. On est tout le temps en train de se faire de l'angoisse, du souci. Et quelquefois, ça atteint un tel niveau hein, que l'on perd pied dans la vie. On a tellement d'angoisse qu'on n'arrive plus à vivre. Et certaines personnes sont obligées de prendre des médicaments pour apaiser leurs angoisses. Ils n'arrivent plus à gérer leurs inquiétudes. Le chrétien ne devrait pas avoir besoin de médicaments si régulièrement il se décharge sur Dieu de ses soucis. Seigneur, j'ai ce souci qui vient là. Regarde, m'est arrivé ce pépin. Prends soin de moi. Et on se décharge. Il ne dit pas, dites-lui vos soucis. Non, il dit, déchargez-vous. Ça veut dire, il faut le laisser là. On le pose et on le laisse là avec Dieu. Et on croit que Dieu va intervenir. En son temps, et c'est là que c'est le plus compliqué. Parce que nous, on aimerait qu'il intervienne dans les 10 minutes qui suivent. Seigneur, je t'ai remis mes soucis, j'attends la réponse, un coup de fil. Non. Parfois, c'est un jour, deux jours, une semaine, un mois. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Déchargez-vous de vos soucis. Il prend soin de vous. Ça, c'est des bons versets à mémoriser aussi. Alors, moi, j'aimerais qu'on ait un petit partage maintenant. Mais attention là. Hein. J'aimerais que vous me disiez quel verset de la Bible vous soutient quand vous êtes dans les difficultés. La louange dans l'épreuve donne la victoire à travers l'épreuve. Et Dieu n'a pas dit qu'il allait nous protéger des épreuves. Il a dit qu'il allait nous garder dans l'épreuve. Et c'est une grande nuance. Le chrétien est éprouvé comme tout le monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais nous avons quelqu'un qui est avec nous dans l'épreuve. Et qui nous donne la patience, la persévérance. Le mot en grec du Nouveau Testament pour persévérance, il y a plusieurs, mais il y en a un qui veut dire rester dessous. C'est-à-dire, on reste sous l'épreuve. Elle est là, elle nous pèse, elle est sur nous, et on reste dessous jusqu'à la sortie parce que Dieu a prévu toujours la sortie. Mais nous devons louer le Seigneur. On va lire dans le psaume 42. Comment David faisait pour sortir de la dépression? Il y a tout dans la Bible. Hein? Psaume 42. Voilà. Ah oui, alors, toujours ces problèmes de versets avec les psaumes. Oui, c'est ça. Non, on va lire comme ça. Alors avec moi, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Hein, vous avez vu la remontée de David, il ressasse tous ses problèmes. On se moque de moi, on m'outrage, on dit où est ton Dieu? Et on me dit voilà, Dieu t'a abandonné, regarde dans quelle situation tu es et mon âme est abattue. Et puis, mais pourquoi est-ce que tu t'abats? Et il parle à son âme. Et c'est ça qui est touchant dans ce psaume. Il se parle à lui-même, il dit, mais attends, pourquoi tu restes en bas là? Remonte, espère en Dieu. Il s'encourageait lui-même parce qu'il était tout seul dans la nuit, je pense. Il n'y avait personne pour l'encourager, alors il s'encourageait tout seul. Des fois, on est obligé de faire ça, mais l'Église sert à ça aussi, hein, à s'encourager ensemble. On va chanter. Mon Dieu est si bon. Les deux premières strophes.
Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant, il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien.
Amen. Alors j'avais oublié les offrandes. Et les offrandes font partie du culte. Par les offrandes, parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent, hein. Ça ne lui sert à rien, à lui. Mais il veut qu'on donne de nos biens matériels, mais aussi de nos cœurs, de nos vies, de notre temps, pour sa gloire, par amour, pour... voilà. Et aussi, c'est pour son royaume, pour que l'Église, déjà, puisse fonctionner. Alors, je vais demander si Samuel et Stéphane veulent venir, et si Samuel veut lire dans 2 Corinthiens 9, quel est l'esprit des offrandes?
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours autre chose que quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais.
On va prier. Notre Père, merci pour tout ce que tu nous donnes, et que ce soit matériel, spirituel, tu es généreux, tu es abondant, et nous voulons donner ces offrandes avec un cœur libre, sans contrainte, et pour te remercier aussi. Nous voulons que cet argent serve pour les âmes perdues, que cet argent serve pour le ministère de cette Église. Aide-nous à l'utiliser avec sagesse, à ne pas le dépenser de mauvaise façon. Donne-nous vraiment, Seigneur, qui même multiplie, Seigneur, cet argent pour que nous puissions avoir un local plus grand dans l'avenir. Merci Seigneur de ta provision et de chacun qui donne avec joie. Amen. Avec lui. On va lire ensemble Jean 14, 1 à 3. Et ensuite, on va chanter un dernier cantique. Jean 14. Avec moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous attendez que Christ revienne vous chercher? C'est ça notre espérance et qui nous fait aussi tenir dans les difficultés de dire un jour, « Seigneur, je vais partir, tu vas me prendre avec toi. » On va chanter « Quel beau jour ce sera !» On ne le chante pas souvent, mais il va très bien avec ce thème. Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez l'apprendre.
Il viendra le jour où Christ sera de retour. Ma tristesse s'en ira quand ce jour arrivera. Il descendra pour régner, il sera le roi de paix. Quel beau jour ce sera. Quel beau jour ce sera quand Jésus me recevra, quand je l'aurai contemplé, lui qui seul m'a racheté. Et ce qui commencera plus jamais ne finira. Quel beau jour ce sera.
Alors, est-ce que vous voulez bien vous lever avec moi pour la deuxième ici?
La douleur sera passée et les larmes oubliées. Plus jamais viendra le soir, plus jamais un au revoir. Dans le ciel on chantera à la gloire du grand roi. Quel beau jour ce sera. Quel beau jour ce sera quand Jésus me recevra, quand je l'aurai contemplé, lui qui seul m'a racheté. Ce qui commencera plus jamais ne finira. Quel beau jour ce sera.
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et tout le monde disait, ce culte est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez une question, vous voulez prier ou